Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Merci d'écouter la radio Nzamba Gatekakawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Une personne qui se serait suicidée a trouvé la mort hier dans la commune Gasogwe de la province de Muyinga. Deux autres personnes ont été blessées par balle par un policier dans la même commune. On fera le point dans ce journal. Dans ce journal également, Sadiki Kajandi fait partie de trois nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation Sévère. L'association AC Génocide de Chilimoso l'accuse d'avoir trompé dans les massacres des Tutsis en 1993 dans la commune de Motao de la province de Gitega. Enfin, plus de 70 000 élèves ont passé aujourd'hui le concours national donnant accès à l'école fondamentale. Des irrégularités ont été constatées. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
En sécurité, pour commencer ce journal, deux personnes ont été blessées par des balles tirées par un policier. Cela s'est produit la nuit de ce lundi en commune Gasogwe de la province Muyinga. C'est une bagarre qui a mal tourné selon les témoins. Dans la même commune, on signale la mort d'une personne qui se serait suicidée la même nuit, Pierre Gahungu.
L'homme décédé habitait la colline Kidi de la zone Kiremba. Selon des voisins, Gordien Windagiye, la trentaine, aurait décidé de se donner la mort suite à une longue maladie qui aurait ruiné sa famille. L'information est confirmée par une source administrative. La police ne s'est pas encore exprimée sur ce cas. Ils ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Ce sont deux hommes blessés par balle dans la même commune de Gasogwe, plus précisément dans la localité de Gassale. C'était ce lundi à 21h30. Le policier qui leur a tiré dessus se battait contre un autre homme. Il a alors pris son fusil, mais au lieu de viser son rival, ce sont les deux hommes se trouvant dans les parages qui ont été touchés selon des sources sur place. Le policier et l'homme contre lequel il se battait ont été interpellés. Une source policière révèle que le policier est toujours en garde à vue. Et selon la même source, il n'en était pas à son premier coup. Quand il prestait au commissariat de police à Chamuzo, il aurait dérobé 400 000 francs burundais à un ressortissant tanzanien.
Merci Pierre Gahungu. Je vous le disais dans les titres, Sheikh Saidi Kajandi, c'est l'un des trois nouveaux commissaires de la commission Vérité et Réconciliation, CVR, adopté ce lundi par l'Assemblée nationale. Il aurait trempé dans les massacres des Tutsis en commune Mutao en 1993, selon les enquêtes de l'association AC Génocide de Chilimoso. Sadiki Kajandi est cité par les habitants de la commune Mutao d'être sur la liste des auteurs de ces massacres dans le livre Burundi Génocide d'octobre 1993 sur la page 573 au numéro 15. Le secrétaire exécutif de la CGNCIDE section Canada, Emmanuel Mourounziza, regrette que ce présumé auteur des crimes n'est pas le seul dans cette commission qui a trempé dans des crimes. Suivez Emmanuel Mourounziza.
Nous avons donc reçu des indications comme quoi Sieur Sadiki Kajandi, qui vient d'être nommé commissaire à la CVR, serait un des auteurs du génocide des Tutsis en commune de Mutara de la province du Tega. Nos sources sont diversifiées à propos. Elles nous ont indiqué justement au départ, ils n'avaient même pas mentionné l'identité complète. On nous avait indiqué que si c'est ce musulman de Mutaro, eh bien, nous savons qu'il a été matériel dans l'accomplissement de la tâche ignoble de l'extermination des Tutsis. Alors, ce que nous avons fait, en ce qui nous concerne, nous avons vérifié dans le livre Burundi, génocide d'octobre 1993 de l'association de la société civile 1996. Et à la page 573, pour ce qui est de la commune Mutaro, la liste des bourreaux allégués, justement, figure bel et bien le nom de Sadiki. Nous sommes souvenus de ce que ce n'est pas la première fois que des commissaires de la CVR soient déjà accusés de crimes graves et sur lesquels malheureusement ils vont être amenés à enquêter. C'est l'occasion de rappeler le cas du commissaire de Hakizimana qui a bel et bien revendiqué dans son livre Burundi le non-dit, la paternité en tout cas, la collision avec les auteurs des massacres qui ont failli décimer les Tutsis d'Onega et Maranga en 1988. Ça c'est juste un cas parmi tant d'autres. Il est recommandable d'interpeller d'abord les Nations Unies parce que nous ne pouvons pas nous adresser au régime dirigé par la même organisation qui a perpétré le génocide, de nous adresser à l'Organisation des Nations Unies et leur rappeler qu'ils nous ont fait une sorte de paria, un cas atypique au monde parce que nulle part il n'y a un régime qui soit dirigé en part des génocidaires identifiés par les Nations Unies et deux, que ces mêmes génocidaires soient appelés, soient habilités à nommer des commissions chargées d'enquêter sur leurs propres crimes.
Nous avons cherché Sadiki Kadjandi par téléphone pour qu'il donne sa version des faits, mais sans succès. Une peine carcérale allant de 2 ans et demi à 5 ans, le versement d'une amende de 100 000 à 1 million de francs burundais, c'est le jugement rendu ce lundi par le tribunal de grande instance à Kayanza à l'endroit de 11 personnes accusées d'avoir porté atteinte à l'économie de l'État. Les détails avec Benny Exelakana.
Lors de leur comparution devant le tribunal ce lundi, les 11 personnes ont été entendues et jugées en deux groupes. Le premier était composé de 4 hommes originaires des communes Kabajoje et Gahombo, accusés par le procureur de la République d'avoir été dernièrement attrapés en possession illégale d'environ 117 kilos de café parche. Puis il a fait savoir au tribunal que ce produit allait être vendu en dehors des frontières. Le deuxième groupe était fait de 7 hommes, tous originaires de la colline Kigume, en commune Gatara. Ces derniers étaient accusés d'avoir gardé discrètement chez eux une quantité considérable de café parche également, évaluée à environ 27 tonnes. Ainsi, le fait d'être en possession illégale du café parche a conduit le procureur à les accuser tous d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'économie du pays. Après avoir reçu les plaintes de cet officier du ministère public et les preuves fournies pour leur condamnation, le tribunal a invité les prévenus à s'expliquer. Mais pour le cas de cet homme originaire de la commune de Gatara, seuls 2 vieillards avaient comparu, tandis que 5 autres sont aujourd'hui en cachette. Après quoi, l'affaire a été mise en délibéré. Lors de la prononciation du jugement rendu, le tribunal a condamné les 4 premiers hommes, de même que les 5 actuellement en cachette, à une peine carcérale de 5 ans et a versé aussi 1 million d'amendes. Pour le cas des 2 vieillards, le tribunal a atténué pour eux la peine surtout suite à leur très vieil âge et d'avoir également avoué la faute commise. Par conséquent, il les a condamnés à 2 ans de servitude pénale et a versé chacun une amende de 100 000 francs.
Inzamba. Dans le domaine de l'éducation, plus de 70 000 élèves ont passé ce 31 mai le concours national qui leur donne la chance de continuer les études dans les écoles fondamentales. Le concours s'est bien passé globalement, mais le ministre ayant l'éducation dans ses attributions a relevé irrégularités, notamment l'absence de certains élèves. Le point avec Vanessa Mohiteka.
Ce concours des élèves de la classe de 9e pour avancer vers leur poste fondamental s'est passé dans 920 centres dans tout le pays. Ce test a été effectué par plus de 10 000 lauréats en mairie de Bujumbura. Dans différents centres de possession de la mairie, l'heure de commencement a été bien respectée, sauf quelques irrégularités qui se sont fait remarquer, comme l'indique le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation qui était présent au lycée du lac Tanganyika.
Et d'une manière générale, ici, dans la mairie de Bujumbura, le concours est en train d'être bien passé. Il y a eu des petites anomalies, vous connaissez très bien, un examen ou un concours d'ampleur nationale. On ne peut pas manquer de petites anomalies, notamment les absences des élèves, notamment manque de surveillance ici et là, notamment manque de quelques copies, mais ce sont des anomalies auxquelles on peut trouver facilement des réponses. Et nous pensons qu'aucune entrave ne peut arriver pour que le concours ne se passe pas très bien et dans des conditions normales.
Ce test s'est bien passé également dans différentes provinces du pays. Nos sources dans la province Muyinga affirment que les présidents des centres des concours, les surveillants et les candidats ont été tous à l'air. On a déploré seulement des absences dues aux abandons enregistrés au cours de l'année en cours. Le concours national de cette année a été caractérisé par une nouveauté où plus de 20 élèves vivant avec handicap du centre-ville de Gitega ont aussi passé ce test 9e.
Merci Vanessa Mouiteka. La décision du ministère du Commerce qui autorise de servir du carburant toutes les personnes qui se présentent dans les stations-service a renforcé le commerce illicite de ce carburant sur le marché noir. C'est le constat amer fait par les conducteurs des véhicules en mairie de Bujumbura. Il demande au ministère de tutelle de suspendre cette mesure qui ne fait qu'empirer la situation de pénurie du carburant. On fait le point avec Trifine Kaniwabo.
Les conducteurs des véhicules demandent au ministère du Commerce de supprimer la mesure qu'il a prise autorisant de servir du carburant à ceux qui se présentent dans les stations-service avec des bidons et fûts. Ces conducteurs estiment que cela est devenu du commerce pour les anciens motards et autres. Ils regrettent que cette spéculation a fait qu'un litre du carburant soit très cher. Jusqu'à 8000 le litre. Le commerce est facilité par les pompistes qui travaillent de mèche avec des gens dans les différentes stations.
Nous qui conduisons des véhicules, ces derniers temps, nous avons énormément de problèmes. Tu peux passer toute une semaine sur une chaîne d'attente sans être servi en carburant. Et cela, c'est depuis que le ministère du Commerce a pris la décision autorisant les stations-services de servir ceux qui se présentent avec des bidons et fûts. Cela a poussé beaucoup de gens à s'adonner à ce commerce illicite. Avec cette autorisation, ils se présentent dans les différentes stations où ils vont faire le plein dans des bidons ou fûts pour aller le vendre sur le marché noir. Ceux qui ont des motos qui ne sont plus autorisés de travailler en ville viennent avec leur réservoir. Il en est de même pour certains propriétaires de véhicules qui, après avoir rempli les tanks, mettent le carburant dans des fûts. Aujourd'hui, un litre se vend à 8000 francs sur le marché noir. Le motard qui a acheté ne fût-ce que 10 litres dans son réservoir en bénéfice net de 50 000 francs par jour. Vous comprenez avec moi que cela est devenu du commerce.
Vous saurez que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a dit très récemment qu'il est très difficile, voire impossible, à ce que tous les usagers puissent être servis en carburant du moment que le pays ne dispose pas suffisamment de devises.
Et pour boucler ce journal, le projet d'extension et de modernisation du département de téléphonie mobile de l'Onatel, Onamob, qui a coûté 30 millions de dollars américains, n'a pas été bien exploité comme il faut. C'est du moins ce que constate le personnel de l'Onatel. Ce personnel relève que le marché de gré à gré conclu a été caractérisé par plusieurs irrégularités. 5 ans après le début du projet, ni l'État du Burundi, ni l'Onatel, personne ne dispose d'un rapport détaillé sur le projet. Le personnel de l'Onatel considère que ce projet a été mort-né parce que n'ayant produit aucun résultat. Le point avec Georgeny Meigna.
En 2017, l'État du Burundi s'est porté garant devant l'entreprise chinoise Huawei pour que cette dernière donne un prêt de 30 millions de dollars américains à l'Office national de télécommunications, Onatel. Cet argent était destiné à l'extension et modernisation du département de la téléphonie mobile, Onamob. Selon les prévisions, Onamob devrait engranger des recettes de 300 millions de francs burundais par mois, une mise en marche. Mais le personnel d'Onatel indique que ce projet a été mal étudié parce que le dit marché a été donné gré à gré à l'entreprise Huawei, en contournant ainsi la voie normale de la passation des marchés publics par appel d'offres. Aujourd'hui, cela fait 5 ans et le projet n'a pas toujours vu le jour. Et les conséquences de cette opération pèsent lourd sur l'entreprise. Ainsi, toutes les recettes de l'Onamob sont directement versées sur un compte 10 caisse ouvert à Bankobu par le ministère des Finances pour servir uniquement au paiement du prêt de Huawei. Le département Onamob est toujours considéré comme un parasite qui ne fait que consommer parce qu'il ne fonctionne grâce à des recettes tirées dans d'autres départements.
C'est un projet qui n'a pas été bien étudié. L'Onamob a raté sa modernisation et son extension. Ce département ne fait pas entrer des recettes à l'Onatel. Je considère le projet comme mort-né. Ce marché a été donné gré à gré à Huawei sans passation par des marchés publics. Les conséquences sont énormes. Il y a un compte séquestre qui a été ouvert à la Bankobu sur lequel doit être directement versée toutes les recettes de l'Onamob. La Bankobu verse à son tour chez Huawei sans réserver aucun franc pour l'Onatel. L'Onamob est aujourd'hui considéré par le personnel comme un monstre qui vole les recettes de l'Onatel.
Dans le document rendu public par le personnel de l'Onatel, cette question Onamob Huawei est cité à la 9e page. Les travailleurs soupçonnent que les 30 millions de dollars américains n'aient pas été utilisés dans leur totalité pour ce pourquoi ils ont été contractés, parce qu'ils disent qu'il n'existe pas de matériel de cette valeur à Ronatel. Autre facteur d'inquiétude, la société tunisienne SFM Technology, qui avait gagné le marché de surveillance de l'exécution du projet, est partie sans avoir donné son rapport.
Nous nous inquiétons et doutons que ces 30 millions de dollars américains n'ont pas été tous utilisés. Et c'est d'ailleurs la raison d'absence du rapport de l'exécution du projet 5 ans après. La société tunisienne de surveillance est partie un peu tôt avant la fin du projet et sans donner de rapport à l'État du Burundi. Jusqu'à présent, personne ne pourra dire combien Huawei a donné à l'ONATEL. Cet argent nulle part visible.
Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons découvrir pourquoi cette société tunisienne est partie sans avoir terminé son travail et pourquoi l'État du Burundi ne s'est pas inquiété de son départ. Pour rappel, le gouvernement burundais, jusqu'au chef de l'État, accuse sans cesse le personnel de l'ONATEL d'être à l'origine de sa faillite en disant qu'il a consommé et le capital et les intérêts de l'entreprise.
Merci bien, Georgeny Meigna, pour toutes ces précisions. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inza Magate Kakawe. Au revoir et à la prochaine.